voix nue. Toute cette semaine, Thomas Baumgartner rencontre Barbet Schroeder. Ce soir, l'Amérique, Bukowski, Barfly.
Bonsoir Barbet Schroeder.
Bonsoir.
On a parlé hier de votre premier long métrage Mort que vous avez choisi de tourner en anglais. C'est un film qui est en langue anglaise, même si ça passe par Paris et que ça se passe essentiellement à Ibiza, c'est en langue anglaise. D'emblée, vous vous dites, la patrie du cinéma, si je veux en faire, la patrie du cinéma, c'est l'Amérique, enfin c'est dans votre viseur.
Oui, c'est-à-dire que pour moi, comme cinéphile, le cinéma était américain, comme un peintre peut dire la peinture est florentine, quelque chose comme ça. C'est-à-dire il y a une période, il y a un classicisme, il y a le cœur d'un art qui se retrouve, où la musique est allemande. C'est des très gros généralisations, mais c'est un peu ça quand même. Donc je pensais toujours à l'Amérique, et il se trouve que là j'étais quand même aussi mu par un problème de censure. C'est-à-dire que je savais qu'un film sur ce sujet-là risquait, même presque, était presque sûr, d'avoir une interdiction. Et les interdictions concernaient pas seulement l'exploitation en France, mais concernaient aussi l'exportation. Donc le film était mort s'il était interdit. Donc je ne pouvais pas supporter cette idée-là. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de le faire en anglais. Mais c'était aussi en même temps que déjà mon premier film était un film américain. Il y avait une star américaine, il y avait un producteur américain, et je suis rentré dans le cinéma déjà en faisant un film américain. Donc pour moi, et qui n'était pas non plus tourné en France.
La star américaine, c'est Mimsy Farmer ?
Oui, c'était une star de Roger Corman. Elle avait tourné 3 ou 4 films avec Roger Corman, des films d'exploitation sur des gangs de motocyclistes, des trucs comme ça.
Je voudrais qu'on prenne le temps de s'attarder sur un film qui est central dans votre filmographie, Barbet Schroeder, c'est Barfly. Mm-hmm. Barfly qui est, c'est marqué dans le générique, écrit par Charles Bukowski.
Bien sûr.
Le poète, l'écrivain américain. Comment vous découvrez Charles Bukowski ? Dans quelles circonstances ?
Alors, je suis en train de faire le montage de Cocole Gorille, qui est devenu un documentaire, alors qu'au début c'était un film de fiction, avec un producteur qui avait l'argent et même un scénariste qui était en train de l'écrire.
Sam Shepard devait écrire un film autour de ce gorille qui connaît le... Voilà. Cette gorille qui connaît le langage des signes.
Et Sam Shepard était en train d'écrire quand la production s'est arrêtée et quand j'ai dû racheter les essais qu'on avait fait en 16 mm pour compléter un documentaire sur ce sujet-là et sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Et puis le montage aussi a été très long. Et donc j'étais à San Francisco. D'ailleurs, il y avait une chose que je faisais à l'époque aussi encore... Une bizarrerie. J'avais une voiture décapotable américaine énorme, avec un énorme coffre, qui apparaît d'ailleurs dans le film Cocole Gorille. Et c'était ma voiture. Et je faisais le montage, là, à San Francisco. Mais j'avais décidé, tant qu'à faire, autant essayer de dormir chaque soir dans un hôtel différent. Alors, puisque je mettais tout dans mon coffre, et il y avait des motels, des endroits où on pouvait arriver en voiture. Donc, absolument, tous les soirs, je changeais de motel. Et c'était amusant, voilà, c'était un truc. Et donc, pendant ce temps-là, je suis tombé sur un livre de Bukowski. Donc, ça a été quand même une révélation. Et puis j'en ai lu un autre, et un autre, et un autre. Mais j'ai dit, mais ça, je vais absolument faire un film avec lui. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a aucun de ses livres qui peut fonctionner comme scénario pour un film, comme base pour un scénario de film. Je ne crois pas. Par contre, lui, si je travaille avec lui, on peut trouver quelque chose, je suis sûr. Et donc,
Qu'est-ce qui vous plaît, Barbet Schroeder, chez Bukowski?
Ce qui me plaît, c'est un ton extrêmement libre, c'est un humour dévastateur, c'est une philosophie très pessimiste mais joyeuse, c'est une volonté de dire la vérité sur la vie, sur les choses, et puis aussi après, évidemment, quand je l'ai rencontré, j'ai pensé que si j'essayais d'imaginer qui était Diogène, j'avais quelqu'un sous les yeux qui pouvait m'aider à imaginer comment pouvait être Diogène. Donc il y avait un mélange de philosophie, de poésie et d'extravagance extrême dans la vie qui est ces livres sont des comme des journaux de ce qui lui arrive. Bien sûr, tout est transposé, tout est légèrement arrangé, mais c'est pratiquement vrai. Il y a la vérité est là tout le temps. Alors, donc je me suis dit, il faut absolument que je lui propose de collaborer à quelque chose. Et donc ça a été très difficile de le trouver, ça. Alors là, il était encore dans un appartement extrêmement modeste, l'appartement dans lequel se passe Woman, donc c'était encore à cette époque-là, c'était dans un quartier très très jeté de Hollywood, c'était pas du tout le Hollywood glamoureux, et j'ai réussi ça m'a mis quand même 15 jours pour trouver son numéro. Et je lui ai téléphoné et je lui ai expliqué que je voulais. Il m'a dit, I don't think so, je crois pas, ça m'intéresse pas. Non, non, non. Et puis bon, ça a raccroché. Alors après, j'ai dit, non, je vais quand même. Alors j'ai raccroché, j'ai dit, je crois que vous imaginez que le cinéma, c'est quelque chose. Comme ça, de très commercial, mais et je veux pas du tout exploiter votre œuvre. Ce que je veux, c'est faire une œuvre de respect et de fidélité à votre œuvre. Il faut bien que vous compreniez que je veux pas du tout juste faire un film, que c'est pas une proposition de film d'Hollywood. Et ok, maybe. Et puis bon, quand on s'est vu, ça a très bien marché. Les bouteilles, à l'époque, c'était du vin blanc allemand qui était redoutable, très sucré, un Riesling horrible, mais bon, on a beaucoup rigolé et puis à la fin il a dit bon alors bien, on va voir si tu es un homme, sors dehors si tu es un homme, on va se bagarrer et alors je me suis immédiatement levé, lui il était encore assis dans le canapé et à ce moment-là comme j'étais assez grand, je dis alors, allez, lève-toi, vas-y, lève-toi. Et alors il a dit, bon, ok, d'accord. Tout simplement parce que je m'étais levé immédiatement. C'était juste ces petites réactions qu'il a. Il a dit, bon, d'accord, hein, j'ai l'impression qu'on s'entend bien, etc. Et après, ça a été merveilleux, c'est-à-dire qu'on a trouvé un moment dans sa vie qu'on a collé avec un autre moment, et c'est-à-dire c'est lui qui l'a fait, mais je l'ai un petit peu dirigé. Je dis voilà, j'ai introduit qu'il y a un détective qui est en train de rechercher ses œuvres, des choses comme ça, des très 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 basiques, mais qui sont pas importantes vraiment, mais qui aident la narration, quoi.
Alors, le convaincre, lui, ça a été une première étape, et donc il y a eu l'écriture, mais vous êtes installé à ce moment-là, en fait,
Oui,
en Californie,
oui, oui.
et ça a été un projet de plusieurs années, ce film.
Oui, de 7 ans. C'est-à-dire que j'étais à milieu de me douter à quel point ce projet était pratiquement contre l'Amérique, quoi. C'était vraiment un truc auquel absolument tout le monde était profondément allergique, c'est-à-dire qu'il y avait un problème. Et je m'en étais pas rendu compte parce que moi j'étais là en admiration devant cet écrivain et cet homme génial. Je pouvais pas imaginer qu'il y avait un problème.
C'est-à-dire, c'est un peu l'anti-rêve américain, Charles
Voilà,
Bukowski. Hein, c'est
exactement, c'est
l'anti-Disney.
ça.
On prend Disney, il faut regarder les antipodes pour trouver
Exactement.
Bukowski.
Et celui qui l'a très bien vu, c'est Stallone. Stallone, dont le frère joue un des rôles,
Frank Stallone.
il a vu ce film et il a dit, ce film est abject, je ne veux jamais avoir rien à faire avec qui que ce soit qui ait travaillé sur ce film.
Et donc ça, pour vous, c'est quoi? C'est une médaille?
Ah ben oui, non, c'était que non, c'est pas une médaille, c'est que lui a bien compris qu'est-ce que c'était le film et qu'il était logique avec lui-même et avec ce qu'il faisait. Et donc, il est plus intelligent qu'on croit.
Alors, l'histoire ou la légende veut que vous ayez fait irruption chez un producteur avec une tronçonneuse pour menacer de vous couper la main.
Mais alors, c'est un truc dangereux parce que cette histoire, quand on la raconte, ça devient un truc idiot. Je me coupe le doigt si vous ne me donnez pas l'argent. C'est complètement ridicule. Évidemment, jamais j'ai fait ça. Mais c'est très simple. Le film allait être annulé. Le film a été annulé, et j'ai été voir donc la Menahem Golan, qui était la tête de Canon, et je lui ai dit, là maintenant on est prêt à tourner, on est à 15 jours du tournage, ou un mois du tournage, on a le cast, on a le budget, on a absolument tout, on a les lieux, etc., et là maintenant vous dites on va pas faire le film. Bon, d'accord, mais est-ce que je peux amener tout ce qu'on a là à tous les gens dans la ville de Los Angeles qui ont les possibilités, l'argent, de dire oui, on le fait et que ça commence le lendemain. Alors, il dit oui, vous pouvez le faire. Je dis, mais pour que ça marche, ça, il faut que vous me promettiez que vous n'allez pas demander de l'argent en plus. Et donc.
Pas de dédommagement, quoi.
C'est-à-dire qu'il soit remboursé tout ce qu'il ait dépensé à ce jour, mais pas plus. Et donc, on a fait ça. On a donné à tout le monde, tous les gens qui pouvaient le donner. Rien. Personne n'est intéressé par faire un film qui coûte rien. Il coûtait, je ne sais pas, 2 millions de dollars. C'était rien. Donc, c'était stupéfiant, tout d'un coup, de faire la preuve que j'avais passé 7 ans à vouloir convaincre des gens, alors que tout, avec des stars et tout ça, personne n'en voulait.
Il y avait déjà Mickey Rourke et Faye Dunaway qui étaient dans le casting.
Tout, absolument tout. C'est le absolument tout. Donc là, j'ai compris tout d'un coup qu'il y avait vraiment un... Mais tout d'un coup, il y a eu quelqu'un qui a dit « ça m'intéresse ». Alors, c'était un obscur type qui était dans l'immobilier. Et donc, à ce moment-là, la machine s'est mise en marche, c'est-à-dire que le film n'a pas été arrêté. On a continué comme si de rien n'était. Et c'est ce type-là qui m'a sauvé, parce qu'in fine, il n'a pas voulu faire le film. C'est le film, parce qu'on a, je vais vous expliquer pourquoi après. Et le film a fini par se faire, parce que Menahem Golan a fait les comptes, et il a dit, on a prolongé tellement que maintenant on a encore dépensé ça, maintenant que je fasse le film ou que je le fasse pas, ça me coûtera le même prix, donc autant le faire. Et donc la situation où j'étais, c'était, il faut que Menahem Golan renonce à demander 1 million supplémentaire à ce type qui va financer le film. Et donc, pour lui faire renoncer, je ne savais pas quoi faire. Je ne peux pas aller voir un avocat, je n'ai pas le temps, tout ça. Donc, je dis, je vais menacer de me couper le petit doigt pour montrer que je suis vraiment déterminé. Et donc, en m'injectant un antidouleur comme on a chez le dentiste ou comme j'avais eu la semaine précédente un truc pour enlever les ongles incarnés, je savais que je pouvais me couper le petit doigt sans aucun problème, qu'il n'y avait aucune douleur et que ce qui m'avait fait mal, c'était de m'injecter. Le reste, c'était aucun problème. Et donc, que je pouvais après aller à l'hôpital éventuellement et le recoller ou pas. Mais peu importe, je faisais pas de piano, je tapais pas à la machine, donc c'était pas très grave. Et donc, je pouvais faire ce truc d'avoir la détermination que j'allais faire. Parce qu'il fallait avoir cette détermination. Il fallait que ça se sent quand quelqu'un est déterminé. Et donc j'avais cette détermination. Et bien entendu, le simple fait que j'ai écrit la lettre et que je sois venu dans le bureau et que j'avais acheté une petite scie, il m'avait demandé pourquoi c'était. C'était pour couper du... Et j'ai dit, c'est pour couper de l'ivoire. Alors, il dit, ah bon, d'accord, là, un truc assez petit, c'était pas un gros scie qui faisait peur, mais je l'ai encore, d'ailleurs. Et donc, quand ils ont vu ça, que j'étais vraiment déterminé, j'ai même pas eu besoin... Parce que Bukowski le raconte, je branche le truc dans le truc et je fais zoom, zoom, zoom avec la... Avec les... En fait, j'ai pas eu besoin de faire ça. J'ai commencé à l'ouvrir et ils m'ont dit non, 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 vous inquiétez pas, on vous promet, etc. Alors, donc ça a marché, c'est-à-dire que j'ai obtenu ce que je voulais, mais il y a eu la grande surprise... c'est que le même jour ou le lendemain, non, ça devait être le lendemain, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, mais écoutez, je comprends pas, votre film, il coûte 2 millions de dollars ou il en coûte 6? Je dis, ben, c'est 2 qu'on a besoin. Il dit, je comprends pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé en me proposant 6. Et je dis, mais qui c'est qui vous propose ce film? Et c'était le type qui avait dit qu'il était intéressé par le film. Donc il n'était pas intéressé par le film, il était intéressé par faire un bénéfice. Donc il y avait personne. Donc c'était le seul type qui était intéressé n'était pas vraiment intéressé. Donc c'était vraiment un projet impossible sur lequel j'avais passé 7 ans. Et Menahem Golan a dit bon ben maintenant de toute façon ça coûte le même prix, on y va, on le fait. Et voilà comment le film s'est fait.
Presque malgré les
malgré
financiers
tout,
d'Hollywood.
Malgré tout, oui. Mais vraiment un miracle, quoi. C'est un film qui, normalement, n'aurait jamais dû voir le jour. Oui.
Barbet Schroeder, dans Barfly, Henri Chinaski, le double de Charles Bukowski, qui est joué par Mickey Rourke, à un moment donné, dit « L'endurance, c'est plus important que la vérité ». J'ai l'impression que c'était une forme de... qui pouvait s'appliquer justement à l'histoire que vous venez de nous raconter.
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'avec l'endurance, on crée une nouvelle vérité, oui.
Peut-être dire un mot justement de Canon Group, dont vous avez parlé. C'est une maison de production assez étonnante qui pouvait produire autant Chuck Norris dans des sequels 1, 2, 3 que John Cassavetes, par exemple.
Oui, c'était une profusion de films plus ou moins d'exploitation sur le modèle. C'était un modèle Corman, en fait. Mm-hmm. L'originateur de tout ça, c'était Corman. Et c'est assez amusant que... j'ai rencontré Mimsy Farmer sur un tournage de Corman, dans lequel j'étais impliqué pour la production, parce que Corman disait, la collectionneuse, ils ont fait pour pas beaucoup d'argent, je vais leur demander s'ils peuvent m'aider pour un film. Qui était assistant sur ce film-là? Menahem Golan. il était lui aussi parti de cette aventure-là. Donc il y a tout un cercle une frange de l'industrie américaine qui est l'exploitation où on fait des films sans arrêt et où les plus grands cinéastes ont fait leur école chez Corman. C'est comme une école de cinéma, il y a tous les premiers Scorsese, Coppola, etc. qui ont commencé là-bas. Alors donc c'est un peu cette école-là qui a continué à multiplier par 10 dans la folie totale. Ils faisaient un film par semaine. C'était incroyable.
Dans Barfly, Barbet Schroeder, vous montrez donc ce personnage joué par Mickey Rourke, poète, sale, saoul, bagarreur, souriant. Mm-hmm. Il est question d'ange à un moment donné. Faye Dunaway croit voir un ange. Mm-hmm. L'ange, c'est lui. L'ange, c'est ce poète. Poète très libre aussi, qui va coucher avec son éditrice, revenir vers cette femme, vers Faye Dunaway ensuite. C'est ça que l'Amérique voulait pas voir, en fait. C'est ça, non? Vous mettez sur le terrain du puritanisme absolu et puis vous montrez un personnage absolument, totalement libre et qui a sa propre morale et qui est peut-être pas celle des autres.
Oui, je sais pas. Je crois que c'est quelqu'un qui dit qu'il faut pas essayer. Ça, c'est déjà quelque chose de terrible.
C'est écrit sur la tombe de Charles Bukowski.
Voilà, don't try, c'est ça, sa devise. L'idée de quelqu'un qui dit qu'il faut pas essayer, ça va complètement au contraire de toute l'Amérique qui est la preuve qu'il faut qu'en essayant, on y arrive. Et donc, il le disait pas. Comme conseil politique à l'Amérique, il le disait pour lui comme chose interne, que pour que ces jus poétiques puissent sortir d'une manière correcte, il avait découvert que s'il essayait trop fort, ça faisait forcer et que c'était pas bon. Donc, mais c'est quand même ça qu'il y a quand même un refus du rêve américain dont on parle tout le temps, mais on parle aussi trop de ce refus parce que c'est devenu un cliché. Mais dans ce cas-là, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est quelque chose de vécu, de senti, et que non. Puis il y avait l'autre chose, c'était l'alcoolisme, évidemment. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, écoutez, vous prenez tel acteur et que vous changez le scénario, je le pour que ce soit non pas un poète mais un chanteur, parce que cet acteur était chanteur, à ce moment-là je vous fais le scénario tel qu'il est écrit. On change rien d'autre, seulement le fait que quand il est dans sa chambre, il au lieu d'écrire sur un bout de papier, il sort sa guitare de dessous le lit et il fait une chanson. Et c'est tout. Autrement, vous changez rien. Et je dis non, là, je peux pas. Et donc, il y a quand même beaucoup. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de refus, puisque c'est un peu la force du refus qui est l'histoire. C'est-à-dire, il veut pas accepter ce succès tel qu'il lui était présenté par cette jeune éditrice. Et c'est un peu l'histoire du film. Mais moi, j'étais obligé, si je voulais respecter l'esprit de ne pas accepter évidemment des choses comme ça. Et l'autre chose qu'on m'a proposée, c'est évidemment de rajouter quelque chose pour les alcooliques anonymes, c'est-à-dire de faire entrer la possibilité d'une rédemption. Et moi, je trouve que les alcooliques anonymes, c'est l'organisation la plus humaine, la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, puisque ça fonctionne dans tous les pays du monde et c'est quelque chose qui n'a pas de leader. Donc, je suis complètement pour, c'est quelque chose de merveilleux, mais j'allais pas commencer à introduire un message comme ça dans cette histoire, évidemment. Et je pense que ça, c'est cette histoire de l'alcoolisme qui est quand même quelque chose de très refusé par l'Amérique, puisqu'ils ont même fait des lois, ils ont fait la prohibition.
Tout ça.
Ça n'a pas aidé non plus à l'acceptation de ça.
Alors, dans d'autres films que vous faites à Hollywood, aux États-Unis, vous continuez finalement, peut-être d'une manière, à aller contre les représentations traditionnelles de l'Amérique. Et en particulier, je pense à Before and After, Barbet Schroeder, oui. Avec Liam Neeson, oui. et Meryl Streep et Edward Furlong. C'est une famille, c'est le noyau familial américain, le père, la mère, la petite fille, qui est aussi le témoin, et puis ce fils qui commet un crime. Et là, on est à la fois dans une tragédie classique, et en même temps vous explosez le modèle de la famille américaine, parce que oui, il faut défendre le fils ou pas, aller dans la vérité ou mentir.
Oui. Ça, c'était un roman qui m'avait fasciné. C'est un projet, c'est, disons que dans les films américains que j'ai fait, c'est un des rares où je sois parti d'un désir que j'avais moi. Parce qu'autrement, si on veut faire des films en Amérique, et si on a un film d'auteur ou un film basé sur un roman qu'on aime et qu'on va adapter, et on va trouver des acteurs, voilà, il ne faut pas rêver, c'est l'exception. Là, par contre, si un studio vous offre quelque chose et que là-dedans, on peut transformer la chose pour la rendre plus intéressante, ça, c'est plus facile, ou non seulement plus intéressante, mais on peut faire des films exceptionnels comme ça. Mais ce modèle-là de Before and After, c'est un modèle de film d'art européen ou de film européen, disons. C'est-à-dire, on trouve un livre qui a un thème passionnant, on décide d'explorer ce thème et on le fait. Et moi, je suis arrivé, je ne sais pas comment, à injecter ça dans le système américain, cette histoire qui est un film d'art, en quelque sorte, qui est ce qu'ils appellent un art film. Et je l'ai fait exactement avec tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire que si j'avais besoin de changer la couleur du toit d'une maison, je pouvais le faire. Et en plus, j'ai pu choisir de le tourner au cœur de l'Amérique, c'est-à-dire au cœur culturel de l'Amérique, c'est-à-dire dans la Nouvelle-Angleterre, c'est dans le pays de la tradition américaine la plus pure, avec des maisons, avec des décors, etc. Voilà, c'est le vrai. Et alors là, C'était passionnant de voir un vrai dilemme où on ne savait pas s'il avait commis le crime ou pas, bien sûr. Et le père disait, je ne veux pas le savoir. De toute façon, je ne veux même pas qu'il soit soumis à ce genre de truc. Je parie qu'il est innocent et je vais effacer les traces. Et je vais l'aider quoi qu'il arrive. C'est ça l'amour. L'amour pour son fils, c'est de le défendre quoi qu'il arrive. Et je ne suis pas sûr, donc dans ce cas-là, je l'aide. Et puis la mère elle dit, ben, de toute façon, imagine qu'il soit coupable, tu peux pas l'innocenter et qu'après, il transporte avec lui toute sa vie la culpabilité d'avoir fait quelque chose et de ne pas avoir été puni. Donc c'était très très intense comme drame, et bien sûr pour moi mon ambition c'était qu'en sortant du film le public soit divisé 50-50, qu'il y ait 50% qui soient pour le père et 50% pour la mère, et qui partent en discutant sur les trottoirs, en se bagarrant, en disant « mais non, regarde », etc. Donc j'avais tout fait un timing absolument parfait de tous les thèmes.
Provoquer l'inconfort quand même, voilà. C'est ça l'idée.
Mais ça provoquait l'inconfort et ça provoquait la discussion. Mais en fait, ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de discussion du tout. Le père était complètement coupable. La mère avait absolument raison et c'était impossible. Toi.
Ça vous a appris à connaître mieux le public américain, ce type de...
Oui, oh ben non, mais tout le travail de montage m'a beaucoup appris sur le public américain. Le public américain, on sait ce que c'est. On sait que Bush a été élu à 50% et que Obama aussi a été élu à 50% et qu'il y a toute une moitié qui est... quelque chose qu'on peut pas concevoir même en Europe. Donc c'est à ça qu'on a affaire. Et donc il faut qu'il y ait le bon et le méchant. Et quand le méchant est puni à la fin, tout le monde applaudit dans la salle. Et c'est ça l'idée de base. Alors donc là, je faisais exactement le contraire. Je créais un doute horrible.
Aujourd'hui, Barbet Schroeder, votre culture de référence, c'est laquelle ? C'est la France, c'est la culture française, c'est la culture américaine. Vous regardez les infos américaines, les infos françaises, c'est quoi ?
C'est très mélangé. J'écoute énormément France Culture. Je regarde CNN et Al Jazeera. Mais vraiment, non, je ne sais pas. Oui, je sais pas. C'est un mélange. Oui.
Merci, Barbet Schroeder. On continue notre conversation demain. À demain.
D'accord.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Thomas Baumgartner avec Barbet Schroeder. À voix nue, attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Martin Guénard. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.